vite, vite, les places sont chères. Alors, aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un message pour moi et pour son église du Gros Morne. Un message particulier, et je vous avoue qu'en le préparant, j'ai hésité. Parce que le passage que nous allons lire, vous le connaissez déjà. Et je me suis posé la question, mais Seigneur, que cherches-tu à nous apprendre encore? Ce passage, nous le connaissons. Nous avons déjà entendu maintes et maintes fois des messages, des prédications, des études. Avons-nous encore à apprendre de ce passage? Et pourquoi pas? Est-ce que la Bible est démodée pour ceux qui sont là depuis trop longtemps? Non. La Bible est-elle dépassée? Non, certainement pas. Le Seigneur a encore à nous apprendre. Combien même nous connaisserions toute la Bible par cœur? Effectivement, le passage que nous allons étudier, le Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, est un passage que nous connaissons. Vous connaissez cette parabole, n'est-ce pas? La parabole des talents. Merci Muriel. Une minute. Notre chère petite manette. Merci. Effectivement, nous avons encore à apprendre de ce passage. Pourquoi? Parce que le croyant, il sait effectivement qu'en Christ, il a la vie éternelle. Ça, nous le savons. Et cette joie que procure cette nouvelle pourrait nous pousser à profiter de cette vie nouvelle, peut-être en flânant. Je suis en vacances. J'ai obtenu la bonne nouvelle. J'ai obtenu le salut. Le Seigneur me garantit la vie éternelle. Et je suis bien. La vie est belle, c'est cool. Pourtant, juste avant la parabole que nous allons lire, il y a cette parabole des 10 vierges qui nous invite à rester pourtant éveillés, car notre Seigneur revient et nous ne savons pas quand. Cela sous-entend-il que nous devons profiter de cette vie nouvelle en nous assurant juste que nous sommes prêts? Nous partons au voyage, le Seigneur Jésus vient nous chercher. Nos vaccins sont à jour, ma valise est prête, c'est bon Seigneur, tu peux venir. Est-ce que cela suffit que le croyant se sente prêt parce qu'il fait tout pour ne pas pécher, tout pour vivre une vie saine? Est-ce que cela suffit dans la vie d'un croyant? Nous allons trouver la réponse dans le passage que nous allons lire, donc Matthieu chapitre 25, les versets 14 à 30. Matthieu, chapitre 25, versets 15 à 30. 14 à 30, pardon. J'en fais la lecture dans ma Bible, version Semeur. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, et un troisième, un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même, et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla, creusa un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, Tu m'avais remis 5 lingots. J'en ai gagné 5 autres. Les voici. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les lingots se présenta aussi et dit, « Maître, tu m'avais remis 2 lingots. J'en ai gagné 2 autres. Les voici. » Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit, Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semence. Alors j'ai pris peur. Et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà. Prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit. Vaut rien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé, que je récolte là où je n'ai pas répandu de semence. Eh bien, tu as dû placer mon argent chez les banquiers. Et à mon retour, je récupérerai le capital, les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Elle nous éclaire. Elle nous guide. Elle nous dirige. Elle nous apprend à te connaître mieux. Elle nous apprend à vivre mieux cette nouvelle vie que tu nous as donnée. Alors, Père, je te prie par ton Saint-Esprit de me guider pour que je puisse parler avec liberté et d'ouvrir nos oreilles, nos cœurs, comme Jean-François te l'a encore demandé. Pour que nous puissions profiter de ton message. Merci Seigneur. Alors voilà donc un maître qui s'en va en laissant la gestion de ses biens à ses serviteurs. Et il en est de même pour nous. Notre Seigneur Jésus s'en est allé pour nous préparer une place dans son royaume. Et il nous a laissé la gestion de ses biens sur terre. Mais quels sont ces biens? En Jean chapitre 17, les versets 8, 9 et 20, il est dit ceci, c'est Jésus qui parle. « Car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Voilà les biens du Seigneur Jésus-Christ. » Et il continue au verset 20, « Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. » Les biens du Seigneur, ce sont ceux qui font partie de sa famille, nous, et aussi ceux qui sont appelés à faire partie de sa famille, ceux qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Nous sommes donc appelés à gérer ces biens, que ce soit à travers l'Église, la prière, pour ceux qui font partie déjà de la famille, que ce soit aussi de manière directe par l'évangélisation, pour ceux qui ne font pas encore partie de cette famille. Constatez la valeur de ces biens. 1, 2, voire 5 talents. Dans ce que j'ai pu lire, la valeur du talent variait de 10 à 20 ans de salaire. Si on applique cela au SMIC, ça ferait environ 150 000 euros à 300 000 euros un talent. Je ne sais pas pour vous, mais si j'avais la possibilité de prêter 150 000 euros, je vous rassure, je ne les ai pas, hein, ne venez pas me demander, je n'ai pas 150 000 euros, mais si j'avais la possibilité de confier 150 000 euros à quelqu'un, je prendrais le temps de réfléchir pour savoir à qui je vais confier ces 150 000 euros. Le maître, lui, ne va pas prendre du temps à réfléchir. Il ne va pas chercher un banquier étranger. Il va juste chercher un serviteur de sa maison. Et notre Seigneur fait pareil. Il ne va pas chercher bien loin. Il va chercher les personnes de confiance dans sa maison, au sein de sa famille. Nous sommes ces personnes de confiance. Dieu nous fait confiance. Et en partant, il nous laisse la gestion de ses biens. Il part, il s'en est allé. Mais l'entreprise, entre guillemets, doit continuer à fonctionner. Dieu ne se contente pas du statu quo. Il souhaite que tous soient sauvés. Donc la tâche n'est pas terminée. Et il nous donne, il nous confie la gestion de ses biens. Le maître a défini les responsabilités de chacun. Le maître connaissait chacun de ses serviteurs. De même, Dieu nous connaît. Il connaît nos compétences, nos qualités, nos dons, puisque c'est lui qui nous les a fournis. Et donc, il sait exactement ce dont nous sommes capables. Les responsabilités qu'il nous donne ne sont pas trop élevées. Le Seigneur nous connaît et il nous a donné une mission, une responsabilité. Mais au sein de notre famille, au sein de la maison de Dieu, il y a deux types de serviteurs. Il y a donc les serviteurs fidèles. Au verset 16 et 17, il nous est dit qu'une fois que le maître est parti, les deux serviteurs se sont mis aussitôt au travail. Les serviteurs connaissaient les attentes de leur maître. Ils étaient conscients de la mission qui leur avait été donnée. Les serviteurs avaient été en permanence avec le maître. Ils ont vécu avec lui dans la maison. Ce n'est pas le jour du départ du maître qu'ils se sont mis à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Non. Le maître est parti et ils se sont mis aussitôt au travail. Ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient leur maître. Est-ce que nous prenons le temps de connaître notre maître? Est-ce que nous prenons le temps de connaître la mission précise qu'il nous a confiée? Est-ce que nous prenons le temps d'identifier les talents qu'il nous a donnés? Il nous est dit que les serviteurs ont fait fructifier. Il n'est pas précisé comment. Il n'est pas précisé en combien de temps. Mais au final, ils ont fait un bénéfice. Personnellement, je ne suis pas convaincu, je ne suis pas sûr que la recherche d'un service, d'un ministère, se fasse sans accroc. Pas toujours, en tout cas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu ainsi. Vous me connaissez donc maintenant en tant qu'ancien, certains en tant que mentor. Il m'arrive de participer à l'entretien des abords de notre église. Mais j'ai aussi essayé autre chose. J'ai essayé membre du conseil d'administration, prêt à même faire partie du conseil de l'Union. Mais le Seigneur m'a dit, non Nicolas, ce n'est pas là que je te veux. J'aime louer mon Dieu, j'aime chanter. Je me suis essayé à conduire une louange. C'était pas mal. On fait quoi que, je ne sais pas, hein. Peut-être que j'ai cassé les oreilles de certains. En tout cas, j'ai bien aimé. Pourtant, le Seigneur m'a dit, non Nicolas, ce n'est pas là ta place, ce n'est pas là que je te veux. Cette recherche du ministère ne se fait pas sans erreur. Mais le but, à la fin, c'est de savoir qu'à la fin, même si je vais échouer, à la fin, oui, j'aurai des bénéfices. Il n'est pas dit que les serviteurs ont tout bien fait, mais à la fin, quand le maître est revenu, ils avaient fructifié. Au verset 20, le premier serviteur répond, « J'ai gagné 5 autres. Les voir. » On est bien d'accord, les 5 premiers talents venaient du maître. Mais les 5 autres, c'est le serviteur qui a travaillé. C'est le serviteur qui les a obtenus par un travail. Il a pu garder quand même un petit peu pour lui quand même. Ben, je ne comprends pas, il a quand même travaillé aussi pour obtenir les lingots, des talents. Et pourtant, il n'a rien gardé pour lui. Le serviteur était conscient qu'il n'a eu rien par lui-même. Nous aussi, c'est la même chose. Nous n'allons obtenir rien par nous-mêmes. Tout ce que nous allons obtenir, c'est par grâce. C'est le Seigneur qui va nous donner des talents, les dons qu'il faut, qui va nous équiper et qui va nous donner la réussite. Tout ce que nous obtenons revient à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Mais dans la maison du maître, il y a aussi un autre type de serviteur. Le serviteur infidèle. Qui s'en va creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Quelle désinvolture, quelle distance. Le troisième serviteur ne s'en sent aucunement concerné par la tâche qui lui est attribuée. Il ne se sent pas concerné par l'administration des biens de son maître. Ça ne lui appartient pas, ça ne le concerne pas. Le troisième serviteur ne connaît pas son maître. Savait-il ce que le maître attendait de lui? Si on vous confie de l'argent, c'est dans un but. S'était-il posé la question, qu'est-ce que le maître attendait de moi? Si le maître n'a pas pris le soin de préciser à ses serviteurs ce qu'il attendait, c'est que pour le maître, les serviteurs savaient déjà, puisque les serviteurs étaient censés le connaître. Est-ce que Dieu a encore besoin de nous rappeler ce qu'il attend de nous? Quel manque de sagesse, quel manque de réflexion sur ce troisième serviteur. Il est allé creuser un trou pour cacher le talent qu'on lui avait donné. Le maître est revenu bien plus tard. Vous pensez que le troisième serviteur est resté près du trou tout ce temps? J'ai du mal à le croire. Comment pouvait-il être sûr que personne ne l'avait vu creuser? Comment pouvait-il être sûr qu'entre-temps, personne ne serait venu déterrer le talent? Était-ce vraiment une bonne idée? Même pas. Le serviteur n'avait pas pris le temps de réfléchir. Il n'avait pas pris le temps de connaître son maître. Quelles ont été les conséquences de ces deux attitudes? Que ce soit le premier serviteur qui a gagné 5 talents ou le deuxième qui en a gagné 2, la réaction du maître est la même. Le maître n'est pas touché par la quantité de talents rapportés, il est touché par la fidélité dont a fait preuve les deux serviteurs. En 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, Paul nous dit, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Voilà ce que notre Dieu attend de nous, que nous puissions agir avec fidélité. Et la récompense est double. Deux récompenses. Premièrement, je te confierai des choses encore plus importantes. Le maître est propriétaire d'une certaine quantité de biens. Il en fait profiter ses serviteurs. Deuxième récompense, viens partager la joie de ton maître. L'attitude des deux premiers serviteurs provoque une joie chez le maître. Il aurait pu récupérer les talents, mettre dehors les serviteurs et faire la fête. Non, il invite les serviteurs à profiter de sa joie. Voilà la récompense de la fidélité de ces deux serviteurs. Alors que ce troisième serviteur ne s'est jamais senti concerné par sa mission qui lui a été donnée. Ce sont les affaires de son maître, ce n'est pas les siennes, ça ne le regarde pas. Au verset 25, il dit, « Je suis allé cacher ton argent. » Ce n'est pas mon argent. « Voilà ce qui t'appartient. Tiens, tiens tes affaires. » On ressent un certain détachement dans les propos de ses serviteurs. Et il justifie encore son acte par la peur que le maître lui inspirait. Mais l'argument ne tient pas. Parce que même s'il avait peur, il existait bien des moyens de faire fructifier les talents, sans transpirer, sans effort. Il avait juste à placer son argent et le maître est juste à récupérer les intérêts. La réponse du troisième serviteur nous montre la vraie nature de ce serviteur. C'est juste un fainéant et un menteur. Et il se retrouve rejeté de la maison de son maître. Et nous alors dans tout ça? Frères et sœurs, si la parabole qui précède, la parabole des dix vierges, se rapporte à l'attente du Seigneur et nous met en garde parce qu'il revient quand il le voudra. Nous rappelons que vous devez rester vigilant. La parole des talents attire notre attention sur le service que nous devons rendre à notre maître. Nous sommes appelés à mettre à profit le temps dont nous disposons. Ma dernière prédication, qui date d'un mois, nous rappelait le contrat de travail que nous avions signé. Et encore aujourd'hui, je viens vous parler de travail, de ministère. Désolé. Mais est-ce un hasard si notre Seigneur nous interpelle tant de fois? Pourquoi insiste-t-il autant? Le Seigneur aurait-il besoin de nous? Pas du tout. Il n'a pas besoin de nous. Cependant, il veut nous faire participer à cette mission. Que son règne vienne, que nous chantons. Que son règne vienne, que nous prions. Dieu nous invite à participer avec lui. Mais il est important de comprendre qu'attendre le Seigneur ne signifie pas rester les bras croisés, droit de pied en éventail, jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Ce n'est pas ça, attendre le Seigneur. Au contraire, chaque croyant que nous sommes, nous avons le privilège de travailler pour lui, de participer à la propagation de l'Évangile, à œuvrer pour que son règne vienne. Les deux premiers serviteurs connaissaient leur maître. Ils se sont vite mis au travail. Nous devons, nous aussi, prendre le temps pour connaître notre maître, pour éviter donc toute peur, toute méfiance, tout doute. C'est parce que Adam et Ève ne connaissaient pas si bien leur Dieu que Satan a pu les faire douter. Leur faisant croire que le Créateur leur avait refusé l'arbre de la connaissance pour qu'ils ne deviennent pas eux-mêmes des dieux. Satan leur a fait douter. Le croyant, lui, n'est pas censé douter parce qu'il connaît son Dieu. Il sait qu'en toute chose, il peut compter et il peut tout par celui qui le fortifie. Le croyant n'a pas peur d'échouer, car il sait que son Dieu affirme, « Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Josué, chapitre 1, verset 9. Le croyant ne doute pas, parce qu'il connaît l'amour, la fidélité, la puissance de son Dieu. Alors effectivement, La parabole, ne traite pas d'un cas. On n'a pas le cas du serviteur qui aurait des talents et qui perdrait tout. Que se passerait-il? Je ne sais pas. Ce n'est pas dit dans la parabole. Mais je sais une chose. Que ce soit le premier serviteur ou le deuxième, le maître était dans la joie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la quantité de talents rapportés qui comptait. C'était la fidélité des deux serviteurs. Retenons donc, je le répète, le chapitre 4, verset 2 de 1 Corinthiens. Que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Tout simplement. Ne regardons pas au résultat. Juste agissons fidèlement à ce que notre maître nous a demandé. Cependant, je voudrais partager avec vous quelques éléments à prendre en compte pour nous aider à réussir dans notre mission. Pour réussir, je dois m'appuyer sur le Père. C'est lui qui connaît mes talents. C'est lui qui me les a confiés. Je dois chercher à m'appuyer sur le Saint-Esprit. C'est lui qui me guide. C'est lui qui me conseille. C'est lui qui m'apprendra à utiliser les talents qui me sont donnés. Je dois apprendre à m'appuyer sur Christ, l'exemple par excellence. Il a rempli sa mission du début jusqu'à la fin de manière parfaite. je dois m'appuyer sur les bonnes personnes. Josué a eu Moïse. Élisée a eu l'exemple d'Élie. Timothée s'est appuyé sur Paul. Nous ne sommes pas seuls. Autour de nous, il y a des personnes qui peuvent nous aider. La première fois que je me suis proposé pour aider à l'entretien extérieur, je me rappelle, je suis venu avec une tondeuse. C'est pratique, une tondeuse. C'est automatique. On appuie sur un bouton, ça avance, ça tombe. Il n'y a pas grand-chose à faire, on ne transpire pas beaucoup. Sauf que ce jour-là, à côté de moi, il y avait Emmanuel avec sa débroussailleuse. À la fin de la journée, j'avais moins transpiré, lui beaucoup plus, mais de son côté, l'herbe avait été beaucoup mieux tendue et l'herbe était beaucoup moins haute. J'ai pris une leçon. En regardant mon frère Emmanuel, j'ai appris à mieux travailler dans ce service d'entretien extérieur. La fois d'après, je suis venu avec ma débroussailleuse, la tondeuse au placard, et j'ai appris, j'ai regardé les frères comment ils faisaient. J'ai observé. J'ai vu que certains penchaient la débroussailleuse d'un côté. J'ai appris. Et maintenant, je le fais beaucoup mieux. L'église y gagne, et mon jardin aussi, parce que du même côté, chez moi aussi, c'est plus propre, tant mieux. Nous ne sommes pas seuls. Autour de nous, il y a des personnes qui agissent, qui servent. Nous pouvons prendre exemple sur eux. Alors, vous vous sentez appelé à un ministère. Mais en voyant ceux qui y sont déjà, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous n'êtes pas comme eux. Et alors, lorsque Dieu m'a appelé à enseigner à son peuple, j'avais quatre exemples dans l'église. Le pasteur Boli. Ah, c'est sûr, je n'étais pas à la hauteur. Je n'avais pas son expérience. Notre pasteur Trèfle, je n'avais pas ses connaissances. Moïse, je n'avais pas son humour. Je ne comprends pas. À chaque fois, il sortait une blague, je ne sais pas s'il les inventait ou pas, je ne sais pas. Mais à chaque fois, il sortait une bonne blague. J'ai cherché, je n'arrive pas. Jean-François, j'ai beau essayer, je n'ai pas sa puissance vocale. Alors, est-ce que je n'étais pas à la hauteur? Pourquoi pas? Dieu ne cherchait pas un bouli, un pasteur trèfle, deux, un Moïse, deux, ni un Jean-François, deux. Il avait juste besoin d'un Nicolas, avec ses défauts. Vous ne vous sentez pas à la hauteur, c'est le Seigneur qui va vous outiller pour être à la hauteur. Te sens-tu gêné? Ton ministère est mal vu. C'est un trop petit talent que tu possèdes. Le service te fait honte. Soyez sûr d'une chose. Notre pasteur pourrait avoir préparé le plus beau message. Daniel, la plus belle louange. Les musiciens maîtrisaient parfaitement les morceaux. Nous serions incapables d'entendre quoi que ce soit s'il n'y avait pas un frère ou une sœur qui nettoyait les toilettes régulièrement. Je vous assure, avec l'odeur, on ne serait pas resté. Il n'y a pas de petit ministère. Il n'y a pas de petit service. Notre maître ressent de la joie, quel que soit le talent. Ce qui lui apporte de la joie, c'est notre fidélité. Alors, tu as peut-être reçu des remarques blessantes, peu encourageantes, à propos de ton service. Je te prie de pardonner à l'auteur de ces remarques. Rappelle-toi que c'est à ton maître que tu dois rendre des comptes. C'est pour lui que tu travailles. Et à toi qui veux faire remarquer quelque chose de constructif, bien sûr. Rappelle-toi que c'est avec amour que nous devons partager, que nous devons nous conduire. Et si tu doutes, si tu ne penses pas avoir la forme ni le tact pour transmettre ta remarque, viens voir les responsables, les anciens, les pasteurs. Nous allons faire le relais. Tu penses que tu en fais déjà suffisamment, alors que d'autres ne font rien. Qu'est-ce que tu en sais? Pour qui travailles-tu? Par rapport aux autres ou pour ton Dieu? Connais-tu le talent de ton frère, de ta sœur? Sais-tu combien il en a obtenu? Non. Vis-tu avec ton frère et ta sœur pour savoir qu'il ne fait rien? Pensez-vous encore que le ministère se limite à ce qu'on fait à l'Église? Non. Nous pouvons servir notre Dieu de maintes et maintes façons. Savez-vous qu'il y a des personnes au sein même de notre Église qui sont là juste parce que quelqu'un a œuvré à l'extérieur sans que nous le sachions pour apporter la parole? Cessons de regarder autour de nous. Nous sommes là pour servir notre Dieu. Peuple de Dimène, pourquoi sommes-nous appelés à travailler pour notre Dieu? Je travaille avec zèle parce que j'aime mon Dieu. J'aime mon maître. Je n'agis pas parce que je suis contraint de le faire. Dieu ne nous oblige pas. Il ne force pas la main. Ce n'est pas la façon d'agir de notre Dieu, rempli d'amour. Mais si je prends plaisir à servir, c'est parce que j'aime mon Dieu. Cette semaine, mon épouse a fêté son anniversaire. Ce n'est pas un secret, dans les annonces, vous le saurez. Et parce que je l'aime, depuis plusieurs jours, je suis en train de me tracasser la tête pour savoir ce que je vais lui offrir. Ce n'est pas une tâche pénible, c'est parce que je l'aime. Je le fais tous les jours, mais spécialement ce jour-là, j'ai envie que ce soit un jour particulier. Et c'est parce que j'aime mon Dieu que je prends plaisir à le servir. Mais ce n'est pas tout. Je travaille avec zèle parce que je suis conscient que j'œuvre pour le royaume de Dieu. Dieu veut que tous les hommes puissent profiter de son salut. Le croyant prend plaisir car il travaille pour l'établissement de ce royaume dont il fera partie. Ce royaume serait bien triste si on était 10, 15, 20. Je prends plaisir à travailler, à servir mon Dieu, parce que je veux que ma famille, mes voisins, mes collègues soient aussi dans ce royaume. C'est pour ça que je prends plaisir à travailler pour mon Dieu. Frères et sœurs, pourquoi Dieu insiste-t-il autant? Est-ce qu'il a besoin de nous? Je le répète, non. Mais il sait que les fainéants, les menteurs, n'ont pas leur place dans son royaume. Aujourd'hui, nous sommes membres de la famille de Dieu. Le troisième serviteur faisait aussi partie de la maison du maître. Pourtant, au retour du maître, il fut jeté dehors. Frères et sœurs, je ne voudrais pas que mon maître ait à me dire un jour, « Vaut rien, fainéant, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et d'amers regrets. » Je ne voudrais pas entendre ces paroles de la bouche de mon Seigneur. Ce message alerte autant ceux qui n'ont pas encore pris conscience de leurs responsabilités que ceux qui n'ont pas pris le temps de bien discerner le ministère que Dieu leur a confié, de bien identifier les talents que Dieu leur a donnés. Quelle déception si le Seigneur me dirait: tu t'es fatigué à faire des choses que je ne t'ai jamais demandées. Et ce que je t'ai demandé, tu ne l'as jamais fait. Tu t'es complètement trompé. Frères et sœurs, je vais terminer par ce conseil que Paul a donné à Archippe, au Colossiens chapitre 4, verset 17. Veille. Oui, veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur, pour bien l'accomplir. Ce n'est pas tout de travailler. L'important, c'est de travailler à la tâche que le Seigneur nous a donnée à chacun d'entre nous. Veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur pour bien l'accomplir. Frères et sœurs, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, Je te remercie pour ton salut. Je te remercie pour ton sacrifice. Je te remercie pour cette vie nouvelle que tu m'accordes. Et Seigneur, je veux te demander pardon. Si toutefois je n'ai rien fait de bon de cette vie nouvelle que tu m'as donnée. Si je me suis reposé en attendant simplement ton retour. Seigneur, je veux te demander pardon si je me suis trompé. J'ai regardé plutôt à ceux qui me feraient plaisir, sans chercher à savoir ce que toi, tu voulais que je fasse. Seigneur, je te remercie pour ta parabole qui m'ouvre les yeux. Je voudrais prier pour celui ou celle qui est dans la classe, qui est dans la classe maintenant, qui est dans la salle, a vécu cette vie nouvelle avec oisiveté, nonchalance. S'il y a une personne qui ne s'était jamais rendu compte que le maître attendait de lui ou d'elle quelque chose de précis. S'il y a quelqu'un qui n'a pas pu identifier le ministère que le Seigneur l'appelle, dans lequel le Seigneur appelle à agir, ou ses talents. Si tu te sens concerné par ce profil, je t'invite juste à lever la main, que je te vois pour prier pour toi. Le Seigneur nous dit qu'aussitôt les serviteurs se sont mis au travail. Est-ce que tu t'es mis aussitôt au travail? Ou es-tu toujours dans l'attente? Si dans la salle, tu te reconnais, je t'invite à juste lever la main pour que nous puissions prier pour toi. Si par contre, tu t'es mis aussi au travail, mais tu sens que tu n'es pas à ta place. Tu doutes. Tu te cherches encore. Tu n'es pas sûr que ce soit vraiment ton ministère. Et tu aimerais que le Seigneur t'ouvre les yeux pour être sûr de ton choix. Lève la main. Je voudrais prier pour toi. Que le Seigneur, par son esprit, puisse te guider, te rassurer et te conduire. Si tu n'es pas sûr de toi, lève la main pour connaître tes talents, ton ministère, ton service. Et si enfin tu souhaites être renouvelé, tu es à la bonne place, tu connais ton ministère, mais tu te sens fatigué, spirituellement comme physiquement. Tu sens les forces t'abandonner. Tu as besoin d'un renouvellement. Tu as besoin d'être fortifié pour continuer à travailler pour ton Seigneur. Là encore, je t'invite à lever la main pour qu'on puisse prier pour toi afin d'obtenir toutes les forces dont tu as besoin pour œuvrer pour ton Seigneur. Merci pour les mains qui se sont levées. Seigneur, tu as vu ces mains qui se sont levées. Tu vois au plus profond des cœurs et tu sais aussi même ceux qui n'ont pas levé la main. Tu connais ceux qui sont sur une mauvaise voie, qui se sont trompés de chemin. Je te prie, Seigneur, ce matin, d'agir dans leur vie, de bousculer leur train-train, de bousculer leurs habitudes et de leur ouvrir les yeux. Père, fais descendre sur eux ton Saint-Esprit et que ton Saint-Esprit, Père, puisse les guider afin qu'ils puissent identifier de manière claire, certaine, les talents que tu leur as donnés, afin que ton Saint-Esprit leur donne les compétences pour utiliser ces talents que tu leur as donnés, afin qu'ils puissent te servir de manière efficace, de manière puissante, et qu'ils puissent faire fructifier les talents que tu leur as donnés. Père, tu vois celui qui a ce besoin de définir ou de redéfinir ce ministère, qui est dans le doute, qui n'est pas sûr de lui. Tu vois son envie de bien faire, son envie d'agir pour toi, son amour pour toi. Père, tu ne nous laisses pas crier vers toi en vain. Tu es ce Dieu qui répond, ce Dieu qui entend. Je te prie de répondre à leurs sollicitations, Père. De leur montrer, Seigneur, si oui ou non, eux aussi sont dans la bonne voie. Et qu'ils puissent aussi œuvrer efficacement pour toi. Enfin, Père, je veux te remercier pour ceux qui travaillent déjà pour toi, mais qui se sentent un peu fatigués, qui se sentent peut-être délaissés dans leurs tâches, isolés, et qui ont besoin de ta force. Ils connaissent leurs limites, mais ils savent qu'en toi, toi le Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui relève, tu es celui qui redresse, tu es celui qui fortifie. Ils savent qu'ils peuvent compter sur toi. Père, je te prie d'agir puissamment dans leur vie, dès maintenant, de renouveler leur force, que tu puisses leur donner, Seigneur, de l'efficacité, Seigneur, dans tout ce qu'ils vont entreprendre, qu'ils puissent parler avec assurance, qu'ils puissent agir avec assurance et force, avec le zèle que tu leur donnes. Oui, Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur toi en toutes choses, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Pour terminer, Église de Dumaine, je voudrais prier pour tous ceux qui ont le désir d'œuvrer, tous ceux qui œuvrent déjà et tous ceux qui veulent continuer à œuvrer pour leur Seigneur. Nous sommes engagés dans un combat. Nous sommes les combattants du Seigneur. Nous sommes ses ouvriers. Nous avons besoin de notre Seigneur à nos côtés pour continuer d'agir. Alors, tous les serviteurs de l'Éternel qui sont dans cette salle, je vous invite à vous lever. Tous ceux qui se sentent concernés par la mission qui leur a été donnée, tous ceux qui sont appelés à servir Dieu, tous ceux qui ont entendu le message de leur maître, je vous invite à vous lever. Je vais demander à Jean-François de me retrouver. Afin que Jean-François puisse bénir tous ceux qui se sont levés, nous bénir aussi, moi-même également, afin de prier notre Dieu de nous assister en tout temps. Parce que même si nous avons ce désir de le servir, l'ennemi va tout faire pour nous décourager. L'ennemi va tout faire pour nous tromper, pour nous détourner de notre mission. Nous avons besoin de notre Seigneur. Jean-François, peux-tu nous bénir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il nous conduise dans notre mission?
Oui, avec plaisir. Oui. Seigneur, tu l'as bien dit, la moisson est vaste, mais il n'y a plus d'ouvriers. Et Seigneur, aujourd'hui, nous sommes tes ouvriers, Seigneur. Et d'après cette parabole, Seigneur, tu nous dis vraiment que personne n'a de bonne excuse pour dire qu'il n'a pas pu, Seigneur. Car, Seigneur, tu regardes à la fidélité. Seigneur, nous l'avons bien compris, Seigneur, il n'y a pas de grande mission ni de petite mission, il y a les missions du Seigneur. Donc, ce matin, Père, vraiment, je veux bénir tes enfants, Seigneur. Je veux les bénir, Seigneur, vraiment, dans l'œuvre que tu les as confiée, Seigneur. Mais je veux aussi prier, Père, qu'ils ne doutent pas de la compétence que tu as mis dans leur cœur, que tu as mis sur leur vie, Seigneur. Quand tu appelles quelqu'un, tu
l'appelles au travail, Seigneur. Mais tu l'équipes, Seigneur. Nous sommes tous équipés, Seigneur, pour te servir, Seigneur. Je prie vraiment, Seigneur, afin que les paroles, Seigneur, vraiment, de l'ennemi qui peut-être voudrait les accuser, qu'ils n'ont pas fait assez, qu'ils n'ont pas bien fait, Seigneur, vraiment, nous refutons ces paroles dans le nom de Jésus, Père. Vraiment, Seigneur, je veux les bénir, Seigneur. Ceux qui sont peut-être fatigués, Seigneur, physiquement, Seigneur, qui n'ont pas la force de marcher, Seigneur, de faire. Père, au nom de Jésus, qu'ils arrêtent de dire, Seigneur, qu'ils allaient faire, Seigneur. Seigneur, qu'ils puissent prier chez eux, Seigneur. Qu'ils puissent s'investir dans la prière pour les serviteurs qui sont sur le front, Seigneur. Nous nous rappelons, Seigneur, le mur de Jérusalem, Seigneur. Il y avait des gens qui priaient, Seigneur, pendant qu'il y avait d'autres qui montaient au front, Seigneur. Oui, Seigneur, ta parole nous révèle, Seigneur, que personne n'a une bonne raison, Seigneur, de dire qu'il ne fait pas, Seigneur. Oh, je prie, Seigneur, pour ceux qui sont peut-être handicapés, Seigneur, qui disent peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent marcher, Seigneur, vraiment, ils peuvent prier chez eux, Seigneur. Ils peuvent prier, coucher sur leur lit d'hôpital. Je me rappelle, Seigneur, vraiment, Seigneur, mon ami sur Facebook, Seigneur, cet handicapé, qui me disait vraiment, Seigneur, la chance qu'on a de pouvoir entendre le vent, de pouvoir entendre les oiseaux, la chance qu'on a, Seigneur, de pouvoir voir le soleil. Il aurait aimé cette chance, Seigneur. Oh, Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous avons nos bras, nous avons nos pieds, nous avons nos yeux, nous avons nos oreilles, Seigneur. Nous avons l'intelligence, Seigneur. Nous pouvons entendre, Seigneur, au nom de Jésus, Père, que toutes les paralysies que Satan est en train de fabriquer, Seigneur, nous détruisons cela, Seigneur, dans le nom de Jésus, Père. Et nous prenons la victoire, Seigneur. Nous prenons l'autorité de la parole que Dieu nous a donnée, Père. Et nous l'utilisons, Seigneur, pour travailler pour l'avancement du royaume de Dieu, Seigneur. Oh, Seigneur, là où l'ennemi attaque les familles, peut-être vraiment, Seigneur, les enfants qui dysfonctionnent, Seigneur, les problèmes de travail, Père. Nous détruisons, Seigneur, ces pièges de l'ennemi, Seigneur. Nous détruisons cette situation, Père. Et nous prenons la victoire, Seigneur. Tu le demandes, Père, que rien n'est plus important, Seigneur, que l'avancement de ton royaume, Seigneur. Oui, oui. Oh, Seigneur, je veux encore maintenant bénir ton serviteur, Seigneur. Seigneur, ton serviteur a parlé sous le contrôle de l'Esprit Saint. Seigneur, je l'ai constaté, Seigneur. Je l'ai vécu, Seigneur, cette semaine, Seigneur. Et j'ai vu ta gloire ce matin. J'ai vu ce message puissant, Seigneur. Ce message autoritaire, Seigneur. Ce message guidé par le Saint-Esprit, Seigneur. Et Seigneur, je vois ce réveil, Seigneur. Je vois la ville qui se réveille. Je vois le peuple d'humains, Seigneur, qui monte au combat, qui se réveille, Seigneur. Et je vois, Seigneur, vraiment, tous ceux, Seigneur, qui ne connaissent pas ta parole, viennent et retrouvent la parole, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que tu élèves, Seigneur, un édifice, Seigneur. Tu élèves des hommes et des femmes, Seigneur. Et Seigneur, que ceux encore qui n'ont pas eu la force de se lever, lorsque le frère a fait l'appel, Seigneur, je les bénis encore. Je prie, Seigneur, afin que Dieu puisse en avoir de gloire, que tu les libères, Seigneur. Au nom de Jésus, ceux qui sont restés assis, Seigneur, qui ont eu peur, Seigneur, que l'ennemi a encore retenu, Seigneur, je les libère. Au nom de Jésus, les anciens de l'humain prennent l'autorité, Père, et nous qu'à libérer au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu fais ce matin. Louange à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur, et c'est toi que nous servons. Tu es le plus grand Dieu. Tu es le seul Dieu, Seigneur, qui a ressuscité et qui est vivant au siècle des siècles. Louange et gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Amen, amen.
Soyez bénis, mes amis.
Merci,
soyez forts et courageux. Alléluia. Mm-hmm.